Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés.
Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes en compagnie de Bertrand Vergely. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bertrand Vergely, qui est philosophe et, comme le signale sa biographie, écrivain orthodoxe. Il va nous expliquer sans doute ce que ça veut dire. Vous avez en effet publié de nombreux ouvrages dans lesquels vous parlez de la foi d'une manière philosophique et de votre foi d'une manière plus personnelle. Vous êtes aussi professeur à l'Institut Saint-Serge. Et en un mot, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cet institut et qu'enseignez-vous en son sein, Bertrand Vergely?
Alors, cet institut est une création extrêmement originale. En 1925, vous avez des grands penseurs russes autour de Florensky Bulgakov qui ont fui la révolution et qui veulent faire un institut de théologie. Et naît ici, à Saint-Serge, dans les Buttes-Chaumont, ce qu'on peut appeler l'école de Paris. Et l'école de Paris représente un des sommets de la théologie, non seulement orthodoxe, mais chrétienne. Comme ça, il y a des âges d'or de la théologie, le 4e siècle, le 8e siècle, le 14e siècle, le 19e siècle en Russie et le 20e siècle à Paris. Et donc, on voit des pensées absolument géniaux qui essayent de penser la tradition chrétienne d'une manière à la fois théologique et aussi métaphysique et philosophique.
Et vous y enseignez donc la philosophie, vous, pas la théologie?
J'enseigne la philosophie, j'enseigne quelque chose que j'essaye de justifier qui s'appelle la théologie morale.
La théologie morale, voilà. Et qu'est-ce que c'est la théologie morale?
Écoutez, j'essaye de raccorder la morale avec ses fondements théologiques. Et je pense que c'est assez intéressant parce que ça donne quelque chose de nouveau à l'expérience morale, qui n'est pas simplement une expérience sociale, mais qui est une expérience au fond de haute connaissance. Voilà.
Oui, à la fois de haute connaissance et, pour vous, du point de vue orthodoxe et aussi dans votre propre démarche, c'est aussi la morale ce qui mène finalement à ce que vous appelez la miséricorde, Bertrand Vergely. Miséricorde à laquelle vous avez consacré votre dernier ouvrage, La miséricorde ou la défaite de l'enfer. C'est là qu'on voit le lien entre morale et miséricorde, publié chez Mediaspol. Ouvrage qui sonne d'ailleurs comme une espérance et définit les contours d'une voie possible pour sortir de l'impasse où nous projette la spirale de la violence et de la haine, haine des autres, mais haine de soi aussi et haine du monde. Vous proposez de revenir à une vertu trop oubliée pour, au nom d'une morale plus haute. Donc cette vertu, c'est la miséricorde. Vous proposez aussi de méditer cette question très sérieusement et surtout d'entrer en action. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cette notion dont vous dites vous-même d'emblée dans votre introduction qu'elle peut paraître désuète, dépassée, voire franchement négative dans l'esprit
Tout
du grand
fait.
Public?
Mais écoutez, c'est l'amener de la miséricorde voulue par le pape François et Bertrand Révillon, qui dirige une collection chez Mediapol, m'appelle un jour et me dit « Est-ce qu'en tant qu'orthodoxe, vous voudriez parler de la miséricorde ?» Je dois vous avouer qu'au départ, j'étais pas très emballé par cette histoire parce que je ne savais pas très bien ce que j'allais raconter. Puis, la miséricorde, ça me faisait un petit peu penser à des choses un peu misérabilistes. Vous voyez, je parle de cette chanson qui s'appelle « C'est aujourd'hui dimanche, les roses blanches
oui. ».
Vous voyez, on voit cet enfant qui vient de perdre sa mère à l'hôpital et donc une espèce de détresse. Et puis, en réfléchissant, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et si vous voulez, je peux le raccrocher ça à mes intérêts. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la théologie orthodoxe, c'est-à-dire cette théologie apophatique qui nous emmène toujours au-delà. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez génial qui, à mon avis, va très bien avec l'esprit philosophique, c'est de penser que les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont plus que ce qu'elles sont. Et donc, c'est ce qui fait que nous sommes reliés à la fois à une dimension transcendante et une dimension immanente. C'est-à-dire, au cœur de l'immanence, on découvre quelque chose qui va plus loin que l'immanence. Mmh. Et je dirais que c'est ce qui se passe à l'intérieur de la miséricorde. La miséricorde, c'est plus que de l'amour. C'est cet amour qui est capable d'aller au-delà. Et c'est en même temps cette vision morale qui est capable d'aller au-delà de la morale. Pour moi, la miséricorde, c'est deux choses. C'est premièrement la réponse à la détresse. Je pense que ce qui fait que la condition humaine est une condition qui n'est pas simplement sociale, morale, psychologique et humaine, mais une condition métaphysique, c'est que la détresse de l'homme est parfois plus que de la détresse. Et quand on a affaire à plus que de la détresse, il faut plus que de l'amour. Et là, tout d'un coup, on commence à rentrer dans ce qu'on peut appeler les profondeurs de l'être, à la fois. C'est-à-dire, on n'imagine pas la misère humaine. Et je pense le seul à peu près qui en ait eu conscience dans l'horizon philosophique, c'est Pascal. Pascal est effrayé par la condition humaine. Et surtout, le comble de la misère, c'est le divertissement. C'est-à-dire, le comble de la misère, c'est pas simplement des pauvres. Le comble de la misère, c'est qu'au milieu de l'enfer, les gens continuent à rire. Ça ressemble un petit peu au Titanic, où les gens dansent alors que le navire s'enfonce dans les flots.
Donc, et c'est vrai qu'à l'époque de Pascal, en plus, le divertissement n'avait pas pris la place qu'il a pris aujourd'hui dans notre civilisation.
Mais il y avait déjà quelque chose qui apparaissait. On rit de tout. Et surtout quelque chose qui va scandaliser Rousseau au XVIIIe siècle, on rit de la cruauté, on s'amuse de la cruauté. Le comble de la misère, c'est le Marquis de Sade, si vous voulez, aussi ou là, où tout d'un coup, normalement, tout d'un coup, la souffrance que l'on peut infliger aux autres est un divertissement. Et par rapport à ça, il faut quelque chose de plus que des vertus normales. Et je dirais que la miséricorde, c'est là peut-être la distinction avec l'amour, c'est que la miséricorde, ça n'est pas tant d'aimer que venir au secours. Qu'est-ce qui se passe quand je suis miséricordieux ? Quand je suis miséricordieux, au fond, je fais grâce. C'est-à-dire, normalement, je devrais punir, je ne punis pas, parce que je pense à long terme et je pense qu'il est plus important d'abord de sauver les gens, ensuite on verra plus tard pour la justice.
Et d'ailleurs, vous citez l'art chinois de la guerre, en fait, dans cette optique complètement déconnectée donc du christianisme. C'est l'idée que c'est même de bonne guerre de pardonner à son ennemi, parce que sinon ça peut avoir des conséquences très graves. Et en fait, la miséricorde, elle commence tout simplement par une sorte d'économie sociale, de relation à l'autre. Alors, qui permet d'être des humains, de rester des humains même
disons
dans des situations de guerre.
Ce que je trouve intéressant, c'est de montrer que c'est formidablement intelligent. Non pas dans l'art chinois de la guerre de Sun Tzu, il dit à un moment ne jamais désespérer son adversaire et toujours lui laisser une porte de sortie, parce qu'autrement vous allez le transformer en une bête enragée. Je pense que dans la miséricorde, il y a cette intelligence venue d'en haut qui fait qu'à un moment on va suspendre le mode normal de la justice, qui fait qu'à un moment, il n'y a pas d'impunité pour les assassins. À un moment, on est obligé de passer au-delà. Il ne s'agit pas de ne pas punir, il s'agit d'abord de sauver. Donc on est là devant quelque chose qui est en quelque sorte une urgence. Mais c'est là où il y a le côté miséricordieux.
Est-ce que vous pensez que la miséricorde peut entrer en ligne de compte quand on a des responsabilités collectives, des responsabilités politiques? Est-ce que le politique peut penser en termes de miséricorde, Bertrand Vergennes?
Oui, le politique a pensé en termes de miséricorde. Regardez par exemple, on s'est réconcilié avec l'Allemagne. On aurait pu ne jamais se réconcilier avec l'Allemagne. On a mis le plan Marshall. On aurait pu dire qu'il faut d'abord que les gens payent leurs dettes et tout. Et je pense, par exemple, nous voyons parfois par rapport à des pays du tiers-monde, les grandes instances internationales sont obligées de lever la dette en disant si on continue de demander aux certains pays de payer leurs dettes, on va les enfoncer, ça va être catastrophique. Et donc, à un moment, on est obligé. Régulièrement, on fait un moratoire pour essayer de lever des dettes, pour arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé, si on ne repart pas à zéro, et si on poursuit à un moment un désir légitime de vengeance ou de justice, on va tous à la ruine. Et là où il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre du cœur et de l'intelligence, c'est l'intelligence qui va au-delà. En disant maintenant, écoutez, on ne va pas se venger, on ne va pas rentrer dans la justice, on va essayer de prévoir l'avenir, on va se réconcilier, on va lever les dettes, on va essayer de faire en sorte de repartir vers l'avenir, parce que c'est plus important que tout.
Et pour que cela soit possible et acceptable par les populations, Bertrand Vergelis, il convient que chacun, évidemment, fasse ce travail pour lui-même, en lui-même, d'abord.
Oui.
Puisque sinon, on ne peut pas l'accepter collectif. C'est vrai que les sociétés, ne sont parfois pas prêtes à accepter cela. Elles ont ce désir de vengeance, elles n'ont pas peut-être assez mûri pour comprendre, ou elles ne sont peut-être pas menées par des gens qui les inspirent suffisamment, pour comprendre qu'elles ont tout à gagner dans la miséricorde, dans le pardon.
Nous avons heureusement, dans toute société et dans la nôtre, des cadres qui sont soit des cadres psychologiques, moraux, sociaux, qui nous invitent à être un peu miséricordieux. Ça veut dire quoi ? De ne pas rentrer dans des conduites de persécution parce qu'on a été persécuté. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui m'a frappé, c'est la Grèce antique. La Grèce antique était organisée autour de lieux de purification. Et il s'agissait absolument de purifier son mental, c'est-à-dire de calmer les passions humaines qui risquent à un moment d'emmener une société à la ruine. Et je remarque aujourd'hui, aujourd'hui nous ne sommes plus dans un monde religieux en Europe, mais il y a des psychologues, des psychanalystes qui font un travail remarquable et qui essayent de calmer les hommes dans leur désir de vengeance, et en particulier vis-à-vis des mécanismes obsessionnels. Mmh. C'est-à-dire, je pense que la miséricorde renvoie à une thérapie psychologique qui nous vise à nous libérer des mécanismes de persécution et d'obsession. Voilà. Et je pense que, en ce sens, si vous voulez, les sociétés n'ont pas le choix. Vous me dites, les sociétés, vous avez tout à fait raison, les sociétés ne sont pas prédisposées à la miséricorde, mais on est obligé, quelque part, à un moment ou à un autre, de l'être.
Et vous avez l'impression qu'on prend ce chemin aujourd'hui dans notre, je vais dire, dans notre civilisation européenne, dans un sens large ?
Bien, le gros problème qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de mal à se libérer des mécanismes de culpabilisation. Mmh. Je vois l'énorme problème de notre monde. Notre monde lutte contre la culpabilisation, mais il culpabilise au nom de la lutte contre la culpabilisation. Mmh. Donc il faut faire très attention. Se libérer des mécanismes de persécution et de culpabilisation, c'est extrêmement subtil. C'est-à-dire qu'il faut en un premier temps se libérer de la culpabilité, mais ne pas culpabiliser à partir du moment où on est en train de lever la culpabilité. C'est-à-dire, vous voyez, ça se voit un petit peu dans la lutte contre les discriminations. Alors, on lutte contre les discriminations, fort bien. Mais on commence à discriminer en disant « toi, tu discrimines ». Et on persécute au nom de la lutte contre la discrimination. Mmh. Donc, on n'en sort pas. Donc, ça veut dire que c'est un travail très, très, très profond qui est, à mon avis, un des travaux les plus importants de la sagesse, purifier son esprit. Aujourd'hui, comme disait Zizek, l'intellectuel est devenu hypercritique. Et donc, d'accord, très bien, bravo pour la critique, mais il faut quand même être capable de vivre une expérience.
Oui, et c'est vraiment pour vous le cœur même du travail philosophique et de la spiritualité, parce que livre après livre, évidemment, vous faites ce travail critique, historique, vous parlez des auteurs, vous les présentez. Mais pour vous, ça n'a pas de sens si ce n'est pas ancré dans une véritable pratique personnelle.
J'ai compris la philosophie quand j'ai compris premièrement deux choses, que c'était une éthique, c'est-à-dire un art de vivre, et deuxièmement, que cet art de vivre consistait à vivre avec la pensée, c'est-à-dire un état de conscience devant le caractère extraordinaire de l'existence. Donc je reviens ici à cette formule du Théétète, où Socrate dit à Théétète, l'étonnement est un bon début pour la philosophie. Pour moi, la pensée, c'est s'étonner. Et je m'étonne du fait que les hommes ne s'étonnent pas, et je m'aperçois que quand je m'étonne, je vois, et il y a de la pensée. Donc nous sommes là pour introduire un état de conscience, et à partir de là, je crois que c'est bénéfique. Premièrement, c'est plein de découvertes intellectuelles, et puis aussi c'est un état de gratitude morale et un état de conscience. C'est extrêmement pacificateur et en même temps savoureux de découvrir l'extraordinaire.
Et pour vous, ça a commencé comment, cette entreprise philosophique ? Est-ce qu'elle était dès le départ en lien avec une vie spirituelle et religieuse, ou les deux choses sont arrivées successivement ?
Il y a eu des étapes. C'est-à-dire, d'abord, je suis né dans un milieu. Ma mère a quitté la Suisse pour découvrir la culture française. Elle découvre la culture russe et l'orthodoxie. Elle devient orthodoxe. Je rentre dans un milieu orthodoxe. Le milieu orthodoxe est marqué par des Russes qui ont fui la persécution du communisme athée pour aller en France et qui pratiquent une religion qui est belle et qui est intelligente. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai mon propre parcours personnel, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai envie d'aller au Mont Athos, je découvre le monde grec, le champ byzantin, Byzance, et puis je découvre petit à petit la philosophie, puis j'essaye de faire le lien. Et je me dis, où se trouve le lien entre quelque chose que je trouvais formidable, c'était deux choses formidables de mon milieu, à la fois la vie orthodoxe très belle, et puis un milieu cultivé très intelligent. Et je pense que j'ai découvert le lien, petit à petit, dans ce qu'on peut appeler la philosophie illuminative, au fond, qui est assez bien résumée par Saint-Augustin quand il pense, ce qu'on trouve chez Platon, c'est que l'exercice intellectuel n'est pas possible sans une illumination spirituelle. Et l'exercice intellectuel est en quelque sorte une expression d'une spiritualité, laquelle s'exprime dans le monde par des œuvres intellectuelles, morales, sociales et engagées et humaines. Et finalement, j'ai construit ma pensée à partir de là, et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps de découvrir, au fond, la philosophie comme un état de conscience, une espèce de conscience extraordinaire de l'existence. Voyez, je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça a une incidence, je dirais, morale, politique et sociale, redire dans notre monde que la vie est quand même assez extraordinaire, que la France est un pays extraordinaire, qu'on ne se rend pas compte d'un certain nombre de choses, ben je trouve que c'est un effet très bénéfique. C'est un effet très stimulant pour tout le monde. Donc c'est pas mal. Moi, ça me permet tout simplement d'abord de faire court et de dire, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant, à quel point ceci est passionnant et tout. Voilà.
À quel point vous êtes dans l'émerveillement, finalement,
qui était le titre
d'un de vos ouvrages.
Oui, oui. Et ça a été... Et je pense que c'est les sources de la philosophie. On l'a. Je pense que l'émerveillement, c'est le moment où le divin et l'humain se rencontrent, où le transcendant et l'immanent, où le matériel et le spirituel se rencontrent. Et là, il y a quelque chose de très fort.
Alors Bertrand Vergely, vous avez parlé de la Russie, de l'orthodoxie, mmh. du temps qu'il fallait pour devenir ou prétendre approcher de la sagesse. Et c'est vrai que en préparant cette émission, j'ai pensé vous apporter un extrait des frères Karamazov. Ça me semblait tout à fait adapté à ce que je perçois de votre parcours. Alors d'habitude, je lis un poème. Et là, à nouveau, c'est une page d'un roman de Dostoïevski, mais à nouveau, je ne fais pas de différence entre la poésie et la prose lorsque la prose arrive au sommet où des écrivains comme Dostoïevski la font arriver. Et donc là, c'est un passage qui est extrait du chapitre qui s'intitule « Entretien du Staret Zosim ». Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs à ce personnage qui pourrait servir presque de fil conducteur à notre discussion. En tout cas, le sous-chapitre s'intitule « De l'enfer et du feu éternel, considération mystique ». Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que votre dernier livre s'appelle « La miséricorde ou la défaite de l'enfer ». Et là, nous avons une description de l'enfer par le Staret Zosim comme étant précisément ce lieu où on se rend compte, ce moment ou cet état dans lequel on se rend compte qu'on a manqué d'amour et de miséricorde. Je me demande, qu'est-ce que l'enfer ? Je le définis ainsi, la souffrance de ne plus pouvoir aimer. Une fois, dans l'infini de l'espace et du temps, un être spirituel, par son apparition sur la terre, a eu la possibilité de dire « je suis et j'aime ». Une fois seulement, lui a été accordé un moment d'amour actif et vivant. À cette fin, lui a été donnée la vie terrestre bornée dans le temps. Or, cet être heureux a repoussé ce don inestimable, ne l'a ni apprécié ni aimé, l'a considéré ironiquement, y est resté insensible. Un tel être ayant quitté la terre, voit le sein d'Abraham, s'entretient avec lui comme il est dit dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. Il contemple le paradis, peut s'élever jusqu'au Seigneur, mais ce qui le tourmente précisément, c'est qu'il se présente sans avoir aimé. Qu'il entre en contact avec ceux qui ont aimé et dont il a dédaigné l'amour. Car il a une claire notion des choses et se dit « Maintenant j'ai la connaissance et malgré ma soif d'amour, cet amour sera sans valeur, ne représentera aucun sacrifice, car la vie terrestre est terminée et Abraham ne viendra pas apaiser, fût-ce par une goutte d'eau vive, ma soif ardente d'amour spirituel dont je brûle maintenant. » Après l'avoir dédaigné sur la terre.
Les discussions du soir, Lélie Anvar.
Bertrand Vergely, un commentaire sur ce passage que je n'ai pas lu en entier, bien sûr, mais j'invite vraiment les auditeurs à relire ces entretiens magnifiques.
Ce passage est magnifique, pourquoi ? Parce qu'il présente l'un des plus grands drames de l'humanité. C'est ce que dit très bien Rousseau, à la fin du discours sur l'origine des inégalités, quand il dit que la philosophie véritable nous préserve d'avoir une raison sans sagesse, une vertu sans honneur et un plaisir sans bonheur. Qu'est-ce que c'est que le manque d'amour ? C'est le plaisir sans joie. Et ça, C'est horrible. Et d'où vient le plaisir sans joie? Le plaisir sans joie vient de ce que l'on est devenu dur. Et d'où vient la dureté? La dureté vient de ce qu'on est, je dirais, dans une certaine attitude intellectuelle qui fait qu'on veut tout rationaliser, tout maîtriser. Ça se voit très bien. D'où vient le mal dans le monde? Le mal ne vient pas de la violence, le mal vient de la violence systématique que je justifie et dont je ne suis plus capable d'être conscient. À ce moment-là, on est devant la cruauté terrible. C'est-à-dire, et donc, qu'est-ce qui menace? Qu'est-ce qui est très intéressant pour nous? C'est notre capacité d'émotion. Et notre capacité d'émotion est liée à la capacité de recevoir. Et donc, de laisser l'extérieur, le transcendant, faire irruption à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce que disait, je dirais que c'est ici, c'est la beauté de ce qu'on peut appeler les vertus passives, ou encore le féminin de l'être, cette capacité de recevoir. Et c'est ça, aimer. C'est-à-dire, aimer, c'est j'accepte de recevoir quelque chose de l'existence et de ne pas vouloir tout maîtriser. Et le problème, c'est l'individu qui parvient à une espèce de réussite totale, et donc il a toutes les richesses du monde, il n'y a qu'un problème, il maîtrise tellement les choses qu'il a tué la capacité d'aimer ce qu'il possède et ce qu'il est. Et là, on a raison. Et là, on est dans la misère. C'est-à-dire la misère, c'est souvent, c'est pas simplement la misère des pauvres, c'est la misère spirituelle, et c'est un monde glacial. Et vous voyez, parfois, il m'est arrivé de me retrouver devant certains duty free shops de grands aéroports et d'avoir un sentiment d'angoisse extrême disant,
je suis donc pas la seule.
Glacial. Vous n'êtes pas la seule.
Je pense
ici à cet endroit invraisemblable qu'est l'aéroport de Dubaï, où tout d'un coup il y a des plus grands duty free shops. Oui. Et j'ai un état de détresse à l'intérieur. Je dis mais il y a quelque chose, il y a aucune émotion dans tout ça. Tout est beau, tout est, vous voyez. Et je pense que c'est terrible. Voilà.
Ah oui, j'ai eu exactement la même expérience, exactement au même endroit. C'est-à-dire l'aéroport, le duty-free, la zone duty-free de Dubaï, en effet. Et surtout, cette sensation, effectivement, de détresse, à la fois à l'intérieur de moi, face à ce déploiement incroyable de la matière, ce règne du dieu argent, et aussi de voir la fascination.
Oui.
De tous ces gens qui traversent l'aéroport.
Qui ont l'air d'être contents.
Ils ont l'air ravis.
Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune poésie, aucune émotion. C'est-à-dire, tout est nickel, mais rien n'est vivant. Et je pense que ça, c'est la misère. Vous voyez, c'est la misère, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment... Et la misère, cette misère-là fait qu'on ne voit plus les gens qui souffrent, on ne voit plus les gens qui sont pauvres, et puis surtout, on ne voit plus les gens qu'on tue, ou alors on se met à rire devant des gens qu'on tue. Et là, on est dans l'enfer.
Oui, d'ailleurs, le Starets dit bien, parce qu'on a considéré ironiquement le fait d'avoir...
Et je pense que spirituellement, et je le vois parmi les intellectuels, parce que leur difficulté, qu'est-ce que c'est que l'expérience spirituelle? C'est admettre qu'il y ait des choses qui viennent d'ailleurs. Et simplement les regarder et accepter cette idée. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait, entre guillemets, une mort de l'intellect prédateur pour permettre d'autres choses. Et quand on vit cela, on a des intuitions. On a des intuitions. Alors, notre monde a beaucoup de mal à entendre cela parce que on a une raison qui est une raison calculatrice et on n'est plus l'habitude de ce qu'on peut appeler la raison émotionnelle, la sensibilité qui vous ouvre les portes de la vision et de la connaissance.
Mais je voudrais revenir sur la notion de misère, Bertrand Vergely, dont vous parlez, et d'ailleurs qui est à l'origine du mot même de miséricorde.
Oui.
Et sur l'idée que, alors vous avez très bien dit, c'est très lisse, vous voyez, ces espaces très luxueux, très lisses. Vous avez dit, ça nous empêche de voir la misère, mais peut-être que c'est même encore plus que cela, ça nous permet d'échapper à cette vision, et vous parlez de cela, c'est-à-dire que quelque chose en nous est terrorisé à l'idée de voir la misère. Qu'est-ce qui nous terrorise dans le spectacle de la misère à ce point?
Je pense que là, quelque part, la misère n'est pas quelque chose de valorisant pour nous-mêmes. Et que quelque part, nous sommes terrorisés à l'image de ne rien être quand on est dans un intellect primaire. Je voudrais rajouter une chose, c'est que le mot misère renvoie au mot entrailles. C'est-à-dire avoir la misère à cœur. Bon, la miséricorde, ça veut dire avoir la misère à cœur. Dans la misère, il y a l'extrême déchéance, mais c'est pas simplement négatif. Nous apercevons que la misère, c'est aussi ce point de l'existence où l'existence est nue et tout d'un coup se révèle dans quelque part son entièreté. Donc il y a cet aspect des choses. Alors qu'est-ce qui nous fait peur à l'intérieur de la misère ? C'est notre côté un petit peu primaire qui fait de ne pas nous sentir valorisés par un extérieur qui permettrait quelque part de donner l'impression d'être quelqu'un. Au fond, c'est notre pauvreté intérieure qui est quelque part révélée par la misère extérieure. Et quelque part, quand on est pauvre intérieurement, on attend de l'extérieur de pouvoir être quelqu'un. Et quelque part, la misère nous fait peur parce que nous nous disons, s'il y a de la misère, alors je ne vais pas pouvoir être quelqu'un.
Oui, et puis peut-être aussi que ça renvoie à ce que vous avez appelé la nudité, c'est-à-dire c'est presque comme si on était devant la nudité, qui renvoie donc à notre propre nudité et par conséquent à notre propre vulnérabilité.
Oui, et en même temps, ce qui est très curieux, c'est que c'est là que se trouvent les plus grandes forces, c'est-à-dire tout spirituel a vu qu'il rencontrait l'essentiel de son être quand il avait tout perdu. Et donc, quand on a tout perdu, justement, qu'est-ce qui se passe ? Paradoxalement, c'est là où on voit apparaître l'un, les sources donc de tout, au cœur de nous-mêmes. Voilà. Donc, on peut jouer parfois sur le nu et l'un. Hein. Le nu, c'est l'anagramme du mot un, et l'un, c'est l'anagramme du mot nu. Donc, il y a ce jeu. Donc, je pense, si vous voulez, que la misère est quelque chose qui nous révèle notre état intérieur. Et c'est face à la misère qu'on se rend compte. Et je dirais que les êtres spirituels, pour les êtres spirituels, il n'y a pas de misère. La misère n'est pas misérable.
Parce qu'ils voient dans l'autre, y compris l'autre le plus misérable, cette dimension d'humanité.
Ils voient l'un.
Voilà, ils voient l'un en réalité.
Il y a l'un derrière la pauvreté, finalement. Et il y a le drame de l'homme qui n'est pas capable d'accepter cette nudité. C'est-à-dire, en fait, la vérité, c'est que nous avons tout en nous. Et nous avons besoin de rien pour pouvoir accepter ce tout, afin de pouvoir simplement être ce tout. En fait, nous avons besoin d'être rien pour accepter le tout qui se trouve en nous. Et je dirais que il n'y a jamais rien. Donc on s'aperçoit qu'il y a toujours beaucoup de richesses là où il n'y a rien. Et puis, il y a le drame de l'humanité qui n'arrive pas à accepter d'être rien pour accéder à ce tout. Et là on est dans les yeux alors des grands sages, des grands spirituels qui ont la capacité de tout voir.
Oui, et en même temps, est-ce que c'est pas dans notre esprit cette gêne, en tout cas, sinon une terreur face à la misère, à la pauvreté, qu'elle soit d'ailleurs physique ou intellectuelle ou je veux dire psychique, est-ce que c'est pas parce que nous sommes dans une confusion entre l'être et l'avoir et que nous pensons
tout à fait
que si je viens en aide à l'autre, si je donne de ma miséricorde, si je donne de l'amour, quelque chose de moi va se soustraire de mon avoir.
Enlever.
Voilà, c'est quelque chose. Voilà, je vais avoir moins.
Je vais perdre quelque chose.
Voilà, si je partage, voilà. Après tout, j'aurai moins moi-même. Voilà. Sans comprendre que, eh bien, dans ce qu'on a donné, on a en retour infiniment plus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de confusion. D'ailleurs, c'est une confusion civilisationnelle très très forte, à mon sens, entre l'être et l'avoir. Et ça nous mène à des comportements qui sont contre-productifs pour notre propre développement.
C'est ce qu'on peut appeler des comportements de rétention en psychanalyse, où être ce que l'on est, c'est avoir ce que l'on est. Il est plus important d'avoir ce que l'on est que d'être ce que l'on est. Et je pense que être ce que l'on est, c'est quelque part être insouciant. Et être insouciant, c'est être capable de tout perdre, c'est-à-dire de se détacher de tout et d'apercevoir qu'en fait, on ne perd jamais rien. La vérité de toute chose, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de perte, mais nous croyons que ça existe, et nous le faisons exister, et nous vivons très malheureux. Donc, si vous voulez, la vérité de toute chose, c'est que la misère n'existe pas, il n'y a que la gloire. Et notre misère, c'est de ne pas la percevoir. Mais la gloire est là. Quand j'ai parlé de ce livre sur la miséricorde, je disais quoi ? Au commencement était le royaume. Au commencement se trouve la gloire. Et la misère, c'est quoi ? C'est d'avoir perdu cette dimension glorieuse et royale de l'existence et avoir l'impression que quelque chose nous manque. Hein. Et je dirais que Hubert Grenier avait terminé son livre sur la connaissance philosophique en disant, voilà, il y a une seule chose qui nous manque, c'est de savoir que rien ne nous manque. En fait, nous avons tout. Mais nous avons des psychologies d'enfants abandonnés. Et nous sommes en train et c'est un peu comme un enfant, si vous voulez, se croit abandonné par sa mère ou par ses parents. Nous croyons seuls au monde.
Et c'est la raison pour laquelle vous pensez, Bertrand Vergely, que finalement le travail spirituel est autant un travail sur l'âme qu'un travail sur ses propres profondeurs psychologiques, sur l'inconscient psychologique, en même temps qu'un travail philosophique. C'est-à-dire que les trois doivent être menés en même temps.
C'est un travail sur la raison. C'est un travail sur le cœur, c'est un travail sur l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons retrouver? Nous devons retrouver, je dirais, cette espèce d'unité débordante qu'on peut appeler la joie, qui se trouve au cœur du cœur, au cœur de la raison. C'était, au fond, Nietzsche cherchait le gai savoir. C'est-à-dire ce savoir qui déborde de vie et ce fait qu'à un moment, il y a une relation entre la raison et la vie et la raison. Et ça, c'est les spirituels, c'est ce qu'ils appellent l'expérience du cœur. Et c'est contre l'intellect desséché qui, ayant l'impression qu'il lui manque quelque chose dans le monde, se rend dans des dispositifs qui sont des dispositifs de puissance et de domination qui nous appauvrissent tout. C'est-à-dire, nous avons dans notre monde des modes de fabrication de la richesse qui appauvrissent tout le monde. Et donc, il nous faut retrouver un mode de relation véritable. Et ce qui est très difficile à comprendre, c'est que nous avons tout en nous. Et notre misère, c'est de ne pas pouvoir le comprendre. Et la miséricorde, c'est de pouvoir être capable d'affronter cela, de rentrer. Donc d'avoir le souci de deux choses, c'est-à-dire le souci premièrement de celui qui est très malheureux parce qu'il vit dans la misère, et puis aussi le souci de ceux qui sont devenus tellement durs. Vous voyez, parce que je pense que c'est là que se trouve beaucoup de misère, c'est cette dureté qui fait qu'à un moment, on a du plaisir sans joie.
Oui, c'est la véritable misère, en effet. Vous avez parlé de Nietzsche, vous en parlez très souvent, c'est un auteur qui vous tient à cœur, justement.
Oui.
Mais.
Avec distance, hein,
voilà,
aussi, parfois.
Voilà, j'y viens. Parce qu'en même temps, il y a évidemment des thèmes chez Nietzsche qui peuvent rejoindre, la manière dont vous raisonnez sur le monde. Et en même temps, Nietzsche est quand même du côté du nihilisme et vous êtes radicalement de l'autre côté. C'est-à-dire, pour vous, le nihilisme, c'est vraiment le grand mal. La grande misère, c'est le nihilisme.
Tout à fait. Vergely. C'est-à-dire, caractéristique de Nietzsche, il pose les bonnes questions. La bonne question est, en gros, où est l'homme divin?
Oui.
Le philosophe devrait être un homme divin, comme les présocratiques, comme Empédocle, où est-il? Formidable question, mise en question de la philosophie. Qu'est-ce qui se passe? Nietzsche reste bloqué sur le christianisme. Il voue une haine terrible au christianisme et rendant responsable de la perte de l'homme divin, ce qui n'est pas complètement faux. Et qu'est-ce qui se passe? Il exalte la volonté de puissance, il exalte et en même temps, il rentre dans une exaltation, la mort de Dieu, la volonté de puissance et l'antéchrist. Et tout d'un coup, il devient méconnaissable. Et il a des phrases absolument hallucinantes de dureté dans « Par-delà le bien et le mal », où il dit à un moment, bon, il faut pas faire de sentiments, et il faut comprendre que la vie, c'est le fort qui écrase le faible,
oui.
Et qui manifeste cette violence extrême. Donc je pense que Nietzsche, si vous voulez, c'est un formidable questionneur de la philosophie, et c'est des réponses terribles. Pour moi, le drame de notre époque, c'est l'individu désenchanté qui pense qu'il n'y a rien, métaphysiquement rien dans le monde, qu'on vient de rien, qu'on va vers rien et qu'on est rien. Donc c'est le désespoir glacé qu'on trouve chez une certaine rationalisation de l'existence. Et là, ça nous précipite tous dans la nuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment, qu'est-ce qui nous fait vivre, c'est qu'il y a quelque chose et non rien. Et qu'est-ce qui nous fait mourir, c'est le fait de dire qu'il n'y a rien. Sachant une chose, c'est que parfois, le fait de comprendre qu'il n'y a rien peut être le passage vers la découverte de quelque chose d'autre. Donc parfois, vous voyez, parce que les choses sont doubles.
Oui, mais là, c'est un rien fécond.
Un rien fécond.
C'est la fameuse annihilation de soi des mystiques.
Mais je suis sidéré par le nihilisme de la science, d'une certaine science, et par un certain nihilisme métaphysique. Et pour moi, c'est totalement antiphilosophique.
Oui, et c'est aussi, alors vous avez prononcé le mot qui me semble très juste dans ce contexte, vous pointez très bien que le nihilisme mène à la dureté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une démarche d'ouverture et d'amour si on est nihiliste. Et d'ailleurs, je pense personnellement que les terroristes, les gens qui font ces actes horribles, en réalité, sont le sommet du nihilisme. Ils manifestent le sommet d'une civilisation qui a pris ce chemin du nihilisme. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi.
Il y a deux types de nihilisme. Le nihilisme, c'est normalement, ça veut dire quoi ? Il n'y a rien, donc je me permets tout. Et donc, il y a premier nihilisme, c'est le nihilisme qu'on voit arriver au 19e siècle, ce qu'on peut appeler le nihilisme athée. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un nihilisme religieux. Alors, le nihilisme religieux extrémiste qu'on trouve dans l'islamisme radical, c'est « je veux faire venir le royaume de Dieu tout de suite et je me permets tout ». Donc, il y a deux formes de choses, c'est Dieu tout de suite.
C'est-à-dire, j'ai plus le temps d'attendre. Dénué de toute transcendance. Enfin,
c'est-à-dire à un moment, et c'est moi qui vais faire devenir Dieu.
C'est surtout ça.
C'est-à-dire que, en fait, et c'est très intéressant, c'est ça qui se passe, c'est que, au fond, le djihad fascine. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, c'est moi qui vais faire venir. Et ce qui est quand même très curieux, c'est que toutes les phrases du Coran commencent par « au nom de Dieu, le miséricordieux ». Or, nous voyons que ceux qui lisent le Coran n'ont aucune miséricorde pour personne. Pourquoi ? Parce que ils n'ont plus de maître qui leur a appris à dépasser leur ego et en disant, c'est pas toi qui vas faire venir Dieu. Donc, il y a deux manières de dire que Dieu n'existe. Je peux dire Dieu n'existe pas, il y a rien, et je peux dire il y a que moi qui existe. Et en général, l'un amène l'autre. Et en fait, ils sont dans un nihilisme inconscient parce que en fait, chez eux, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il l'écouterait et il ne ferait pas exister. C'est eux qui veulent faire exister Dieu.
Oui, ils ne pourraient pas commettre ces abominations.
Voilà,
ça, c'est sûr.
C'est ça qui est important. Hein. Et je pense que donc, il peut y avoir aussi un nihilisme caché à l'intérieur du monde religieux lui-même. C'est qu'en fait, les gens font semblant d'y croire, mais fondamentalement, ils n'y croient pas. Donc, je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un homme religieux ? Un homme religieux, c'est quelque part quelqu'un qui accepte qu'il y ait quelque chose d'autre. Et surtout, tu te laisses guider et c'est pas toi qui vas sauver le monde. Donc attention, c'est autre chose, ça viendra d'ailleurs, et tu as une tâche précise là où tu fais, là où tu es, et cette tâche, entre autres, d'abord c'est d'être dans la perfection là où tu es. Donc ça c'est autre chose, c'est pas toi qui décides. Or les terroristes décident.
Absolument. Et alors l'autre chose qui était intéressante dans ce passage que je vous ai lu, donc dans le discours du Starets Ossim, qui d'ailleurs court dans l'ensemble du roman, c'est l'idée qu'il dit... Ce n'est que dans ce monde qu'on peut s'exercer à l'amour. Après, c'est trop tard. Il y a une prise en compte, et j'ai l'impression que ça, c'est très profondément lié à la spiritualité orthodoxe, une prise en compte du monde comme ce lieu où justement l'amour est possible. Évidemment, c'est ce lieu où l'amour peut être, où la miséricorde, où l'amour peuvent être déniés et négligés. Mais c'est aussi ce lieu qui rend possible cela. Et à ce titre, il y a une sorte de célébration. Vous avez parlé du mot de gloire, qui est un mot, à mon sens, très connoté de la spiritualité orthodoxe. C'est-à-dire, il y a une gloire à être au monde et à devenir divin à travers l'expérience humaine dans ce monde-ci.
Ce que j'ai retenu dans la spiritualité orthodoxe, c'est le sens de la plénitude et que tout est beau. Que Dieu est beau, que l'homme est beau, que le monde est beau, qu'on ne se refuse rien. Et donc, à un moment, on dit, mais ce que tu vois, c'est plein de gloire, c'est plein de beauté. Regarde ça et aie de la gratitude. Et si tu apprends, les grandes choses commencent dans les petites choses. La gloire, elle est dans le jour qui est aujourd'hui. Elle est dans cette scène, dans ce soleil qui est devant nous. Si tu es capable de voir ça, alors tu pourras voir le ciel. Et je dirais que c'est là où, et ça c'est magnifique, parce que j'ai appris la liberté d'esprit. La liberté d'esprit, c'est de dire tu t'ouvres à tout et tout est bien. J'ai vu tellement dans des milieux religieux des gens qui faisaient des jugements, des gens qui coupaient les choses. Et c'est pour ça qu'il est dit ne juge pas, parce que si tu juges, tu vas couper les choses et tu vas te couper des choses. Au fond, c'est magnifique de dire que l'amour de Dieu n'a pas de limite, il est partout, il est en tout, et tu n'es jamais abandonné. Partout, tu as des occasions de découvrir des choses superbes et glorieuses. Alors ça, c'est magnifique. Et j'ai vu, si vous voulez, j'ai vu personne penser comme ça. Même souvent, Nietzsche rêvait. Et il disait, j'aimerais à un moment ne plus régler des comptes. J'aimerais ne plus être dans l'accusation. Mais malheureusement, elle est toujours, parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, mais j'ai d'abord besoin de me venger, parce que j'ai des comptes à régler. Non, voilà. Donc c'est cet ouvrage, alors ça, cette ouverture, pour moi, c'est la liberté de l'esprit à l'état pur. Et c'est le moment où on voit l'esprit et l'amour se rejoindre. C'est-à-dire, c'est un torrent, c'est des cascades, ça déborde.
Mais comment, Bertrand Vergelier, au quotidien, développer cela en nous-mêmes, autour de nous, c'est-à-dire cette disposition à la beauté qui, là aussi, on revient toujours à Dostoïevski, qui pourrait sauver le monde,
une extrême attention à chaque moment de l'existence et savoir que véritablement tous les jours j'apprends quelque chose, les autres m'apprennent quelque chose. Donc là où je suis, j'apprends. Et c'est formidable. Moi, je vis. Par exemple, quand on écrit, on est obligé d'être très attentif. Et tout est une leçon. Quand on enseigne, quand on parle, quand on mange, quand on boit, quand on vit, tout est important. C'est comme ça que ça se voit. Et à ce moment-là, c'est extrêmement intéressant parce que on sent une douce chaleur à l'intérieur du cœur quand on est en harmonie. Et puis, effectivement, quelque chose qui souffre en nous, quand tout d'un coup, c'est pas juste. C'est extrêmement intéressant de vivre. Et là, je dirais qu'on rencontre ce qu'on appelle le maître intérieur, le guide intérieur. Et le guide intérieur, il a plusieurs visages. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on est, il y a les autres, il y a la vie, il y a les circonstances, les événements. C'est extrêmement intéressant. Vous voyez, de vivre comme ça. Et tout d'un coup, eh bien, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont glorieuses, le glorieux pouvant passer par le difficile. Hein. La difficulté n'est pas... c'est pas mal. Hein, des passages un petit peu difficiles, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je le vois très bien, parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile d'écrire, étant donné que plus j'écris, plus je me corrige. Et plus je me corrige, plus c'est difficile, et plus c'est difficile, plus c'est bon. C'est très curieux.
Plus ça vous fait du bien, en tout cas,
ah
visiblement.
Oui. Ah oui, 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 oui. Parce que quand à un moment, il y a la chose juste qui arrive, on a le sentiment comme s'il y avait un ami qui nous veut du bien, et qui nous élève, et qui nous amène au niveau où il veut nous amener.
Alors ça, c'était pour la beauté et pour la miséricorde. Comment vous diriez qu'on peut la travailler?
La miséricorde...
Comment vous pouvez dire qu'on peut... se disposer à cela et à pratiquer la miséricorde? Alors, au quotidien, vraiment.
Je crois qu'il y a ce moment où on dépasse les conflits. Vous savez, il y a des phrases très belles et très simples et très sages dans le quotidien quand on dit à quelqu'un « prends du recul, prends de la distance, arrête de te focaliser sur tel et tel conflit, prends de la distance ». Ça, c'est de la miséricorde. Puis deuxièmement, la miséricorde, c'est aussi de se souvenir. Fais attention. Un jour, tu as fait des erreurs et tu as été très content que quelqu'un ne soit pas trop dur, soit un petit peu miséricordieux et comprend que lui aussi peut faire des erreurs. Et donc, je pense qu'il y a cette espèce de générosité. Alors ça, on le trouve chez Montaigne, on le trouve chez Descartes, on le trouve à un moment, il y a cet extraordinaire conscient. On se trompe tous. On se trompe tous. On est tous dans l'erreur. On est tous dans l'ignorance. Je suis dans l'ignorance. C'est-à-dire, je pense que si je suis capable de dire, attends, souviens-toi que le premier des ignorants, parfois, c'est toi. Qu'est-ce que tu sais quand tu parles? Donc, fais attention parce que souvent, tu juges. Tu te rends pas compte à quel point tu es dans une espèce d'orgueil et de folie. Et ça fait énormément de bien, vous voyez, pour l'âme, parce que ça évite les obsessions.
Eh bien, merci Bertrand Vergelier. J'espère que je n'oublierai pas la leçon. Je rappelle le titre
merci.
De votre dernier ouvrage, La miséricorde ou la défaite de l'enfer, publié chez Mediapôle. C'était Les discussions du soir, une émission animée par Lilian Var. Réalisation Clotilde Pivin. Préparation Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Julien Douminc.